Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Elle est un 5 étoiles à elle toute seule. 2 étoiles pour son restaurant parisien, 3 pour sa table londonienne. Sa popularité, elle l'a aussi gagnée à la télé grâce à son rôle de jury dans Top Chef. Elle aime la cuisine jusqu'à avoir appelé son chat Ciboulette. Mais attention, elle n'allait pas l'appeler chef, elle déteste ça. Celle qui n'est jamais aussi à l'aise que derrière ses fourneaux a accepté pour une fois de s'asseoir en salle, à table. Hélène Darroze est dans Hors Piste.
Hors piste. Thomas Soto sur France Inter.
Aquitaine Première vous propose ce soir de faire connaissance avec une famille parmi les plus célèbres de votre région, les Darroze, dont le nom à lui seul évoque tout un art de vivre fait de plaisir gastronomique. Mais hélas, parfois, même les belles histoires ont une fin. Ici, à Villeneuve-de-Marsan, l'héritière de la dynastie, Hélène, a décidé de quitter les Landes pour s'installer et tenter l'aventure à Paris.
Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude.
Souvent, on a un esprit critique. Hein, quand, et souvent, je faisais la critique d'un plat ou d'un truc qui me convenait pas. Elle me disait, mais tu es toujours en train de me critiquer, tu me dis jamais. Et je lui dis non, mais à l'échelon, à notre échelon, tout doit être parfait, tout doit être. Et c'est quand ça ne va pas qu'il faut faire remarquer.
Une fois, il m'a dit, et là ça je m'en souviendrai parce que ça m'a fait un choc, ton grand-père va se retourner dans sa tombe.
Deux étoiles en moins de 3 ans, cette jeune chef de 35 ans entre dans le cercle très fermé et très masculin de la gastronomie française.
C'est un événement dans le monde de la gastronomie. Une chef française décroche une 3e étoile au Michelin britannique. Elle en avait déjà 2, mais en France...
Salade pour une Saint-Jacques, s'il vous plaît.
Bonjour à tous. Bienvenue dans ce premier concours national Top Chef 2010.
Allez-y, prenez tout, hein. Oui, chef.
Cette année est un nouveau tournant pour le concours. Une saison sous le signe de l'audace attend les candidats.
Sa mère, pour moi, c'est vraiment ma Madeleine de Proust, mon ADN. C'est vraiment ici ma plus grosse source d'inspiration, on va dire, ce Pays basque, que ce soit Biarritz, que ce soit un peu plus l'intérieur du pays, que ce soit même le Pays basque espagnol. Pour moi, c'est le sang qui coule en moi. Là, on va faire on fait des testings. Après, je dois voir Mirko, le sommelier. Après, j'ai une conférence call avec Moscou. Et après, à 3h30, normalement, je suis à la sortie de l'école aujourd'hui. Voilà.
On reconnaît un grand cuisinier à sa façon de faire un œuf frit ou faire une omelette. Tout le monde ne sait pas faire une omelette. Et souvent, quand on veut faire passer un test, quand on embauche un cuisinier, on lui demande, fais-moi une omelette pour savoir ses capacités. Et c'est à une omelette que souvent on juge un cuisinier.
La musique de l'aile ou la cuisse pour terminer ce portrait. Bonsoir et bienvenue dans Hors Piste, Hélène Darroze.
Bonsoir.
Si je voulais vous faire plaisir là pour vous souhaiter la bienvenue, qu'est-ce qu'il faudrait que je vous prépare à manger ?
Oh, alors moi je me régale, je me régale parce que ça c'est un souvenir d'enfance, une Madeleine de Proust. Je me régale avec un poulet rôti, moi.
Ah.
Un poulet rôti avec des grosses frites à la graisse de canard bien croustillantes mais qui ont un peu baigné dans le jus du poulet et qui donc aussi parfois sont un peu molles et pleines de ce jus un peu gras. Alors c'est un poulet des Landes, hein, c'est pas n'importe lequel.
Je peux pas vous préparer n'importe quoi, c'est Hélène Darroze quand même.
Donc voilà.
Bon, malheureusement, je fais partie de ceux qui adorent bien manger mais qui ne connaissent rien plaisir de cuisiner. Qu'est-ce que ça vous fait, Hélène Darroze, vous, quand vous vous mettez au fourneau?
Je ne sais pas quoi dire, là, vous voyez, là, je dois le reconnaître, là, je me remets un peu dans les cuisines, parce que c'est vrai que j'ai eu 2 mois assez difficiles avec beaucoup de très prises par Top Chef, par des voyages, etc. Et là, je retrouve le goût d'être très régulièrement dans mes cuisines. Mais vous pouvez pas savoir comment je revis. C'est du bonheur.
Mais vous ressentez quoi?
Je sais pas. Ça vous prend aux tripes, là. Ça vous monte à la gorge. C'est quelque chose qui, ça vous avez envie de crier tellement vous êtes heureux. J'aime cuisiner, j'aime partager, j'aime faire plaisir. J'aime donner du bonheur aux gens à travers la cuisine. Mais j'aime aussi ce moment de partage avec mes collaborateurs, là. Tout à l'heure, ce matin, je suis allée au marché. J'ai acheté 2 énormes céleri raves et j'ai dit bon alors on va changer, on va les cuire en croûte de sel, on va aller les chercher comme ça tout fondant, on va les faire avec un peu de crème de truffe et on va changer la garniture du bœuf. Mais c'est tellement du bonheur quoi d'être allée au marché, d'avoir trouvé ma petite maraîchère qui est dans les Yvelines et qui était là, qui regardait mes endives de pleine terre, elles sont un peu plus sucrées que les autres, etc. Et vous achetez ça et puis hop, après vous rentrez chez vous, vous le cuisinez, que ce soit à la maison ou au restaurant, hein, c'est juste du bonheur.
Vous avez conscience d'être une provocation pour tous ceux qui se demandent tous les jours en soufflant « qu'est-ce que je vais encore bien pouvoir préparer pour les enfants ce soir ?» Comment les aider? Comment nous aider, nous, les traumatisés de la préparation du repas?
Comment vous aider? Déjà, commencez par aller sur les marchés. Aller sur les marchés et regarder les produits. Et vous allez voir, vous allez être tenté d'acheter des choses que peut-être qui vous ne serez pas passé par l'esprit. Hier soir, moi, j'ai fait un carpaccio de chou rave. Vous voyez ces choses, voilà. Et voilà, c'est tout simple. Les gens, ils en revenaient pas parce que c'était juste du chou comme ça et des radis aussi, quelques radis que j'émince tout doucement. Et c'est juste du vinaigre, de l'huile d'olive, un peu de fleur de sel et de poivre. Et voilà.
Il faut faire simple.
Simple.
Alors, il y a du plaisir, mais il y a aussi un stress de fou. Il paraît que vous n'allez jamais en salle, c'est vrai ou pas ça? Pourquoi?
Parce que d'abord mon domaine c'est la cuisine, parce que c'est là que je me sens bien, parce que voilà, et parce que arriver dans la salle comme ça après avoir son service, quand on est quand même bien fatigué d'un service et qu'on arrive, je trouve, comme un cheveu sur la soupe, et peut-être que j'ai aussi peur du regard des autres, je sais pas, même si ça va quand même mieux.
Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de pas les voir sourire? Vous avez peur de pas les voir contents, les clients?
J'ai peur de les déranger. Et j'ai peur, je sais pas, j'ai peut-être peur de pas avoir rempli ma mission, je sais pas, j'en sais rien. Mais alors, attendez, j'ai contourné maintenant cette difficulté, ce truc, puisque à Marsan, j'ai complètement ouvert mes cuisines et quand mes convives entrent dans la salle à manger ou en sortent, ils sont obligés de passer devant moi. Donc, je suis obligée de les voir et tout. Et même
donc, eux vous voient, mais vous n'êtes plus obligée d'aller les voir, en fait.
C'est eux qui viennent me voir.
C'est eux qui viennent vous voir. Alors, vous avez eu votre première étoile en 2000, Hélène Darroze, la deuxième en 2003. Vous l'avez ensuite perdue en 2010 pour la récupérer en 2021. Est-ce que ça vous a empêché de dormir? L'importance de l'étoile?
Quand on l'a perdu, je vais pas vous dire, c'était un gros choc, quoi. C'était vraiment un très gros choc. Mais ça l'a été tellement pour mes équipes, encore plus, quoi. Parce que, en fait, il faut dire le contexte, on l'a perdu parce que je venais de partir à Londres. J'étais moins présente à Paris, c'est certain. J'étais très engagée à Londres parce que c'était un gros bateau là-bas. Et donc, mes équipes ont pris ça très personnellement. Ça veut dire, on n'a pas été à la hauteur. Elle nous a confié quelque chose, elle est partie. Et donc, il a fallu que je réagisse très, très vite pour les remettre en confiance et dire que voilà, on continuait, on se remettait en question et voilà. Ça m'a pas empêché de dormir. Ça m'a rendue malheureuse. Oui, c'était douloureux, mais bon, après, la vie, elle continue, hein, c'est clair.
Elle continue, mais on voit bien que pour les chefs, ces histoires d'étoiles, quand on en a goûté, quand on a eu 1, 2 ou 3 ou 5 comme vous, les pertes, c'est quand même un peu traumatisant, un peu stressant. Mais Hélène Darroze, moi, j'ai une question à vous poser. L'art, y compris l'art culinaire, peut-il s'accommoder de la compétition? Est-ce que c'est pas deux choses qui sont complètement antinomiques?
Mais alors, c'est quoi la compétition? C'est d'aller aux étoiles, c'est ça? Parce que moi, je le prends pas comme une compétition. J'ai ces étoiles, elles me rendent très heureuse et je vais pas dire le contraire. Mais je peux vous dire une chose, c'est que voilà, je me lève pas le matin, je me rase pas devant ma glace, comme on dit, en pensant aux étoiles. Je pense juste à donner du bonheur. Qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux? Comment on peut se remettre en question? Comment? Voilà. Mais c'est pas dans le but des étoiles. C'est parce que tous les jours, on a quand même ce challenge de rendre des gens heureux, quoi, et de les surprendre, de, ils viennent chez vous, c'est quelque chose pour eux, quoi. Là, aujourd'hui, à midi, j'avais une table, ils venaient de Belgique, ils venaient exprès pour ça. J'avais une table de Suisse, ils commençaient leur périple. Ils étaient aujourd'hui sur la table du chef à Marsan, demain ils sont à Gioia, ensuite ils vont à Aix et après ils vont à Londres.
Ils font
en
la
une
totale.
Semaine, ils font la totale.
Ils font le Hélène d'Arros Tour.
Vous vous rendez compte de la responsabilité que c'est ouais. de rendre ces gens heureux. Mmh. Donc les étoiles, on n'y pense pas, quoi. On a juste à se dire, il faut juste qu'ils repartent et qu'ils soient hyper heureux. Mmh. Ils font ça pour moi, donc c'est pas, je suis pas dans la compétition, je suis juste avec cette responsabilité et puis ce bonheur, parce que c'est une responsabilité qui est liée au bonheur, parce que quand ça marche, c'est tellement génial, cette responsabilité de rendre des gens heureux, quoi, mmh. à travers une expérience qui commence par l'assiette, mais qui est aussi un petit élément de service, le petit cadeau qu'ils vont pas avoir en partant, toutes ces choses-là, quoi.
Et tous les souvenirs qui resteront par la suite, évidemment.
Exactement.
On est très nombreux à avoir déjà vu Ratatouille, Hélène d'Arros, le dessin animé en cuisine, et d'ailleurs, il paraît que c'est vous, Hélène d'Arros, qui avez inspiré le personnage de Colette. Et alors, Colette, elle a du tempérament.
J'aime autant que tu saches tout de suite exactement à qui tu as affaire. Combien de femmes tu vois dans cette cuisine? Je suis la seule. Et pourquoi, à ton avis?
Pourquoi
Parce que la grande cuisine est une institution archaïque qui obéit à des règles éditées par des vieillards misogynes et bornés. Des règles qui font qu'il est impossible pour une femme d'entrer dans ce monde. Et pourtant, je suis là.
C'est encore vrai, Macholande en cuisine ou pas?
Ça a un peu changé. Ça a quand même beaucoup changé. Hein. Ça a quand même... Oui, c'est un milieu un peu macho, mais on a quand même et ça, les plus grands chefs ont quand même largement ouvert leurs portes aux cuisinières et aux chefs féminins, on va dire.
Vous faites attention à vous entourer de femmes. Je ne sais pas si vous considérez qu'il faut avoir des quotas en cuisine, mais vous en tenez compte,
non,
de ça ou pas?
Non, alors je n'ai pas du tout des quotas. Je suis très heureuse quand une jeune femme intègre ma cuisine, mais hélas, il faut quand même le dire, il y en a pas beaucoup, hein, ouais. Parce que alors c'est pas que c'est fermé ou pas, c'est que c'est quand même des choix à faire pour une femme qui sont pas faciles,
des choix,
quoi.
De vie.
C'est des choix de vie, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, moi ce soir je repars au service et demain soir aussi et je laisse mes petites filles à la maison et c'est des choix, c'est une organisation différente, c'est une façon de d'appréhender la vie familiale autrement qui attention, hein, moi je pense avoir des petites filles super équilibrées, super mignonnes,
Charlotte,
tout le monde me le dit, ouais.
On en parlera
donc
tout à l'heure.
Voilà, mais il faut que dans la tête on puisse se dire ouais, je peux le faire autrement. Et attention, moi j'ai été maman aussi à 40 ans quand j'ai eu les moyens de premièrement d'avoir des personnes autour de moi assez compétentes, assez talentueuses pour pouvoir déléguer dans les cuisines et dans le restaurant, et puis aussi quand j'ai eu les moyens d'avoir deux nounous parce qu'il faut deux nounous, hein, ouais, c'est clair,
ouais,
et net.
Ouais, ouais. Et est-ce que c'est un milieu brutal, la cuisine? On a toujours l'impression que derrière les portes battantes là, ça gueule, c'est stressé, c'est tendu,
écoutez,
ça insulte presque.
Moi en tout cas, moi il se trouve que j'ai des cuisines ouvertes dans presque tous les restaurants et surtout, j'ai dans les restaurants gastronomiques une table du chef, c'est-à-dire que des convives mangent, mais vraiment au milieu de la cuisine, dans la cuisine. Donc chez moi, c'est très calme, on entend une mouche voler. Alors c'est vrai que ça surprend toujours un peu ceux qui mangent à notre table, enfin ceux qui mangent dans la table du chef, mais je crois que de toute façon, aujourd'hui, les cuisines, c'est beaucoup ça quand même, c'est beaucoup de respect et beaucoup de considération et de calme. Il n'y a pas besoin, de toute façon, quand c'est vrai que dans le vif du sujet, hein, quand il faut sortir les assiettes, etc., il peut y avoir des erreurs de cuisson, d'assaisonnement, etc. Mais moi, je dis toujours, c'est pas en criant, c'est pas en mettant la pression à celui qui a fait l'erreur qu'on va trouver la solution. C'est en disant, écoute, voilà, on recommence, on en parlera après pour pas que tu recommences. Mais voilà.
On peut être chef et sensible. Vous avez la réputation d'être une hypersensible, Hélène d'Arros.
Oui. Je pense que tous les chefs sont très sensible, hein. Je pense que, mais moi je suis, j'appelle ça la sensiblerie, moi, chez moi. Donc,
ça se traduit comment?
Je suis d'une sensibilité, oui. J'ai un peu grandi par rapport à ça. J'ai pris de la maturité. Je prends les choses moins personnellement. J'ai pris un peu de recul parce que sinon, voilà. Mais c'est vrai que. Oui, je suis une sensible, oui, je suis une sensible, et puis dans ma cuisine, en fait, qu'est-ce que je mets avant tout, hein, avant de mettre de la technique ou quoi que ce soit, je mets des émotions. Donc, je donne tellement de moi-même que des fois, ça peut être violent, quoi. Mmh.
Sensible, mais qui sait ce qu'elle veut, c'est pas moi qui le dis, c'est votre maman, Annick.
Quand elle a décidé quelque chose, elle va au bout des choses. Puis quand elle a fini, elle entame autre chose et c'est toujours en améliorant les choses.
Vous arrêtez jamais ?
Alors ça, c'est ce qu'on m'a un peu, mais certes, enfin, mon entourage, mes collaborateurs parfois ont eu à me reprocher, c'est que c'est vrai que on avait à peine fini quelque chose que moi j'étais déjà partie dans la prochaine étape, dans ce qu'on allait faire après. Je sais pas si je suis pas, bon, je sais pas si je me calme ou pas, j'en sais rien.
Ouais. Ça vous laisse quand même le temps de profiter ou pas?
Ah bah oui, ouais. Enfin, je veux dire, si j'étais pas heureuse, je ferais pas. Je veux dire, c'est. Ça fait partie de mon équilibre et de mon bonheur. Mais je profite. Je profite. Oui, je profite.
On a entendu votre maman. Maman, il paraît que c'est le surnom que vous donnent vos équipes. Mm-hmm. Elle vous appelle pas chef, mais maman. Pourquoi ?
Dans
Pourquoi
mon
maman
dos, hein.
Ah, c'est dans votre dos, c'est pas devant vous.
Ben non, je l'ai compris il y a pas très longtemps. Je l'ai compris il y a 2 ou 3 ans, c'est tout. Mais c'est vrai que partout, il m'appelle maman. Et pourquoi ? Ben parce que je pense que je suis très maternelle dans ma façon d'être, de gérer, de voilà. Je le dis toujours, moi, on forme une grande famille, quoi. Hein, et c'est pas 4 familles, hein. C'est pas une famille Londres, une famille Marsan, une famille Joya, une famille dans le sud de la France. C'est une grande famille avec des mêmes valeurs. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qui jusqu'à présent étaient assez instinctives, qui se sont mis en place assez instinctivement et tout. Mais aujourd'hui, j'ai cette vraie volonté de continuer à faire qu'on ait une grande famille et à travailler pour ça, quoi.
Et maman, au sens propre, hein, pour le coup, vous l'avez été, vous l'avez dit tout à l'heure, à 40 ans. Charlotte et Kitrick, aujourd'hui 14 et 12 ans, c'est ça?
C'est ça.
Ouais.
Mmh.
C'est indiscret si je vous demande pourquoi aussi tard?
Ben pourquoi aussi tard? Parce que d'abord il y avait le travail, ça c'est clair, hein, parce que d'abord il fallait travailler.
Mais c'était un choix ou c'est le temps qui est passé très vite?
C'est le temps qui est passé très vite. Ouais. C'est le temps qui est passé très vite. Ouais, le temps est passé très vite. Ça c'est clair que le temps est passé très vite. Après voilà, il y avait aussi après des ma vie personnelle, voilà, m'avait pas donné vraiment l'occasion encore de penser à être maman, quoi. Ouais. Hein, et puis voilà, et puis bon, j'avais vraiment dans ma tête depuis que je suis adolescente l'envie d'être maman de façon biologique, ça c'est clair, mais aussi d'adopter des enfants,
cas, hein, ouais.
Voilà. Et du coup, à 40 ans, je me suis réveillée, je me suis dit maintenant, il faut le faire, quoi. Hein, ouais. Il faut le faire.
Vous êtes réveillée parce que peut-être vous étiez un peu oubliée avant.
Ben, c'est sûr qu'il y a des moments où je m'oublie, hein, ça c'est évident. Hein, ouais. Là, ces 3 derniers mois que je viens de passer, je me suis vraiment beaucoup oubliée. Et comme je vous disais tout à l'heure, il me tarde que ce mois de décembre finisse pour qu'il me semble que le début de l'année prochaine va me permettre de me poser un peu. En tout cas, dans mon agenda, j'ai mis des périodes qui seraient pour moi ou pour mes filles. Et, voilà,
ou
et...
pour peut-être la rencontre du prince charmant.
Oh bah ça oui, pourquoi pas aussi, mais enfin c'est comme les étoiles, hein, j'y pense pas en me rasant le matin, sincèrement c'est arrivé, ça arrivera encore peut-être, je sais pas, j'en sais rien, mais c'est pas quelque chose non plus qui me taraude, hein.
Ouais. Au fait, vos filles, elles mangent de tout ou pas?
Mes filles, alors j'ai cette chance qu'elles mangent de tout, de tout. Les seules choses qu'elles aiment pas et qu'elles veulent pas goûter, c'est le caviar. Vous voyez, des choses, ouais, comme ça. Par contre, alors tout le reste, alors les gâteaux, elles sont pas très gâteaux, mais par contre, elles adorent tous les fruits, les légumes,
Et vous les obligez à finir leurs assiettes avant de sortir de table?
Bah, j'essaye, oui, mais ça c'est responsable. Donc oui, ça oui.
Hélène Darroze, on va faire une première pause musicale dans Hors Piste, le temps d'écouter le titre que vous avez choisi. Alors c'est Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You.
Bah oui, parce que c'est de circonstances, quoi. On approche vers Noël et j'adore cette chanson. Elle est gaie, elle est joyeuse et voilà.
Hélène Darroze qui a choisi de nous mettre de bonne humeur sur France Inter. Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. C'est le choix d'Hélène Darroze qui est dans Hors-Piste.
Ça vous fait sourire.
Ah, ben vous aussi, je vous ai vu chanter, je vous ai vu chantonner, presque danser. Hein, c'est... Alors Hélène Darroze, on entendait tout à l'heure votre mère qui a été pharmacienne et pas cuisinière, qui est presque une exception dans la famille. Hein, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, la cuisine chez les Darroze, c'est une affaire de famille depuis le 19e siècle. En 1895, votre arrière-grand-père a ouvert le relais à Villeneuve-de-Marsan, repris ensuite par vos grands-parents, Jean et Charlotte, puis
non,
par...
Jean et Louise. Charlotte, c'était ma grand-mère institutrice du côté de maman.
Donc c'est de l'autre côté, donc c'est d'accord. Jean et Louise, d'accord. Voilà. Puis par l'arbre généalogique n'est pas facile à suivre. Puis par votre père Francis et votre oncle Claude. Ça devait mettre une sacrée pression quand même, non? C'est eux qui vous ont dit, ma fille, maintenant reprend le flambeau ou...
Non, pas du tout. Alors non, pas du tout. Alors dans la tête de papa, c'était vraiment pas mon frère qui devait reprendre le flambeau. Hein. C'était pas moi. Hein. Je pense qu'il a été même assez déçu hein, à un moment donné. Hein. Mais non, moi ça m'a pas mis de pression. Moi, non. Je me la mets pas trop la pression, hein, ni par les étoiles, ni par la famille, ni non, je prends les choses comme elles viennent et je les vis comme elles viennent et non, ça m'a pas mis de pression. Sincèrement, j'ai toujours essayé d'être moi-même dans ce que je faisais, dans ce que je cuisinais et voilà. Alors au début, c'est vrai que ça a été compliqué parce que au début, j'ai commencé à travailler donc dans la maison familiale et il y avait des plats, des institutions quoi. Hein, et c'est vrai que moi, j'ai un peu dépoussiéré tout ça, j'ai un peu dépoussiérer, je dis ça, mais en fait, pour certains clients, c'était pas bien, hein, parce que justement, il n'y avait rien à dépoussiérer. Mais c'est vrai qu'il y avait des plats emblématiques que j'ai revisité ou que j'ai sorti et tout, et ça a fait du bruit
c'est
quand
pas
même.
Pas toujours très bien passé.
Ouais.
Vous citez très souvent, j'espère ne pas me tromper de grand-mère cette fois, votre grand-mère Charlotte, et vous dites même que c'est elle qui aurait mérité de recevoir des étoiles.
Ah non, c'est Louise
qui a décidément.
Mais c'était... Non, c'est Louise.
Alors pourquoi Louise aurait-elle mérité
Mais parce que Louise, c'était donc ma grand-mère paternelle, la femme de Jean, le grand chef qui avait deux étoiles mais elle était son ombre et elle était tout le temps à travailler dans les cuisines et je pense qu'il aurait jamais été le cuisinier qu'il a été s'il y avait pas eu ma grand-mère dans l'ombre quoi, ça c'est clair.
Mais votre mentor en cuisine, c'est pas votre père, c'est pas votre oncle, c'est pas votre grand-père, c'est Ducasse.
Oui, Alain Ducasse m'a... J'ai commencé la cuisine avec lui, de toute façon.
Au 15, à Monaco.
Voilà, parce que moi, je n'étais pas destinée à faire de la cuisine. Hein. Et d'ailleurs, quand je suis rentrée chez Monsieur Ducasse, j'y allais pour travailler dans ses bureaux. J'y allais pas pour travailler en cuisine.
Parce que vous aviez fait une école de commerce à l'époque.
Exactement.
Voilà, côté coulisses administratif.
Oui, c'est
presque,
ça, c'est ça. Moi, mon ambition, c'était de gérer des hôtels, des restaurants, mais c'était pas de faire de la cuisine. Et, par contre, je cuisinais depuis toujours, hein, parce que j'adorais cuisiner depuis toujours. Mais c'est vrai que Ducasse, dans leur concours de circonstances, il pouvait pas me prendre tout de suite dans les bureaux, donc je suis partie dans ses cuisines, etc. Et c'est là qu'à un moment donné, il m'a dit, c'est pas possible, hein, là, maintenant vous y restez, et puis voilà.
Ils ont été fiers de vous, vos parents, ou pas?
Je pense quelque part, comme il disait papa tout à l'heure, hein, on l'entendait, dans la famille, on sait plus dire ce qui va pas que ce qui va. Hein.
Ils vous l'ont jamais dit qu'ils étaient fiers de vous?
Non, pas vraiment, je vais pas dire. Non.
Et vous, avec le recul, maintenant, vous dites que vous avez fait tout ça un peu au nom du père, au nom du grand-père, au nom d'arrière-grand-père ou...
Non, je pense que j'ai fait ça... Je me sentais pas porteuse j'avais pas la responsabilité de continuer ou quoi que ce soit. J'ai jamais pris les choses comme ça. J'ai fait juste ça parce que c'est ce que j'aime faire, quoi. C'est ce qui me donne du bonheur à moi aussi.
C'est une évidence, un chemin.
Ouais, je sais pas, ou un destin peut-être, je sais pas, j'en sais rien, mais j'ai fait ça parce que sincèrement, je suis heureuse de faire ça, j'aime ça, quoi, j'aime ça, j'aime ça.
Ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes pour vous, Hélène Darroze, avec la disparition de votre papa, suivie de celle de votre oncle le mois dernier, et vous avez écrit ce très joli texte sur les réseaux sociaux, « Ils s'aimaient trop ces deux-là, inséparables dans le cœur et dans une cuisine ». Mon oncle Claude s'en est allé cette nuit rejoindre son frère adoré. L'histoire est très belle et là-haut, il y en a qui vont se régaler, mais notre grande famille est orpheline de ces deux patriarches. Quelle est la différence finalement entre votre cuisine et celle de votre père?
je sais pas quoi dire. La différence. Moi, il faut ma cuisine. Elle s'inspire quand même beaucoup de ce que j'ai appris de ces deux-là, hein, de ma famille en général. J'ai été confrontée dès que j'étais petite à la réalité du monde paysan, du monde de la chasse, du monde des pêcheurs. Il y avait tous les jours dans les cuisines de ma famille ces fournisseurs, ces pêcheurs, ces producteurs qui venaient avec leurs produits, qui venaient les montrer, les vendre, qui parfois repartaient avec parce que c'était pas assez joli. Et ça, je l'ai appris d'eux. Et cette valeur du produit, voilà. Ensuite, la valeur de mettre de l'émotion aussi, de cuisiner ce qu'on aime, de cuisiner ce qui nous ressemble, de raconter à travers un plat nos émotions. Je la dois aussi à ce que m'a appris ma famille. Donc, ouais. Je pense que la philosophie, en fait, la colonne vertébrale, elle reste la même. Je la dis différemment parce que d'abord j'ai une sensibilité différente que celle de papa ou que celle de mon oncle et puis il y a des moyens aussi il y a aujourd'hui des moyens de s'exprimer des moyens techniques autrement la cuisine elle évolue mais ça n'empêche que dans ma cuisine hein, dans ma cuisine ici à Marsan à Paris j'ai cette grillade de mon grand-père, c'est une grillade lyonnaise mais quand on la voit les gens ils hallucinent parce que c'est un truc qui a plus de 100 ans quoi hein, et elle est là et elle est allumée tous les jours et tous les jours on cuit dessus. Donc j'ai quand même un très fort héritage de cette famille et de ce terroir basque-hollandais que je revendique et qui m'a construite et qui me construit tous les jours.
Mais dans cette époque où on a l'impression que les hommes et les femmes jouent plus dans le même camp, est-ce que vous diriez qu'il y a une cuisine d'hommes et une cuisine de femmes ? Est-ce que même la cuisine est genrée aujourd'hui ?
Moi, je dis toujours, et c'est ni un reproche, c'est juste un constat, et c'est pas qui est mieux ou pas mieux d'un côté ou de l'autre. Je pense, il me semble que, en tous les cas, il me semble, mais après il y a des exceptions partout, attention, hein, mais il me semble que les hommes cuisinent plus pour démontrer quelque chose. Je le vois très bien sur Top Chef, par exemple. Hein, mais voilà, c'est vraiment, je veux montrer ce que je sais faire. Alors que moi, en tout cas, c'est voilà qui je suis, quoi. Ouais. Et après, je vous montrerai éventuellement, je mettrai de la technique sur qui je suis et ce que je ressens. Mais voilà. Alors, est-ce que dire que tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, je crois pas. Je crois qu'il y a des exceptions dans un sens comme dans l'autre, mais voilà, je pense que c'est un peu ce qui se passe dans les cours de récréation, hein, c'est qui fera pipi le plus loin chez les hommes, et puis alors que chez les femmes c'est pas du tout ça, quoi. Non, c'est pas ça.
Quand on a un rythme comme le vôtre, Hélène Darroze, qu'on est constamment entre Paris, Londres et les enfants, est-ce qu'on a le temps d'avoir des amis?
Oui, bien sûr que j'ai des amis, j'ai des amis. Alors c'est marrant l'amitié, hein, parce que j'ai des amis de longue date, des amis d'enfance qui sont là, qui sont toujours là dans les moments les plus importants, etc. C'est voilà, mais j'ai aussi il est arrivé de, enfin voilà, et ça arrive toujours d'avoir des coups de cœur en amitié et
qui rentrent dans le cercle comme ça.
Voilà,
rapidement.
Qui rentrent dans le cercle et sur qui je peux absolument compter, même si je les connais depuis 4 ou 5 ans, soit c'est tout. Oui, bien sûr que j'ai des amis et des amis sur lesquels je peux vraiment compter et qui sont, c'est important. Mais bon, moi, vous savez, la limite entre famille et amis, il y en a pas trop, hein, parce que mes amis, c'est aussi ma famille. Je dis, je vraiment, et d'ailleurs, ils sont complètement ma famille de cœur et vraiment intégrés complètement à ma famille de sang, quoi. Hein.
C'est ceux que vous aimez, en quelque sorte.
Oui, ouais. C'est ça, ouais. Ouais.
Alors, y en a une qui vous aime beaucoup, 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 c'est Laetitia. Écoutez ce qu'elle dit de vous, Laetitia Hallyday.
Grâce à elle, j'ai mené le combat. J'ai sauvé mon mari 2 fois. Le jour où il est tombé dans le coma et le jour où il a eu une crise cardiaque, elle a été là. Malgré le fait qu'elle soit pas présente physiquement, mais par les mots, c'était encore plus fort et essentiel pour moi. Elle m'a portée. Et j'avais cette lumière, cette espèce de la sagesse d'Hélène au-dessus de moi, comme des bouffées d'oxygène et des bouffées d'amour qui me disaient, voilà, t'es pas toute seule. Tu vas mener le combat et il va s'en sortir. Ne lâche pas. Ne lâche pas, je suis là. Je t'aime.
Quand on est ami avec Laetitia Hallyday, que certaines personnes adorent détester, on en prend aussi plein la figure. Comment vous avez vécu tout ça, vous ?
Moi, ça, j'en ai pris plein la figure. Je m'en fiche un peu, quoi. Hein. Ouais. Moi, une fois de plus, mes amis, c'est ma famille. Et voilà, quoi. Moi, j'ai vécu tout ça. Enfin, je veux dire, on se permet de juger des choses qu'on ne connaît pas, des gens qu'on ne connaît pas, simplement parce qu'ils appartiennent à tout le monde, peut-être, ou quoi, et sans connaître les tenants et les aboutissants, et je trouve ça tellement, voilà. Mmh. Et je prenais beaucoup, beaucoup de recul sur tout ce qui a pu se dire et se faire et se, voilà, parce que voilà, j'avais plutôt deux petites filles qui venaient de perdre leur papa à soutenir, une épouse qui quand même voilà avait partagé, je crois, beaucoup beaucoup d'années, bien que beaucoup plus que tant d'autres, à côté d'un homme qui quand même ne laisse pas indifférent, quoi, qui laisse des traces, quoi. Hein. Donc voilà,
vous aviez quelle relation avec cet homme, vous, avec Johnny?
Alors moi j'avais une relation qui était un peu c'était assez bizarre parce qu'à la fois il savait très bien que qu'il pouvait compter sur moi et que Laetitia pourrait toujours compter sur moi et les filles aussi, etc. Mais en même temps il était un peu jaloux de cette relation particulière que j'avais avec Laetitia puisque j'étais sa grande amie et que voilà, donc et que du coup elle me confiait des choses aussi des fois parce qu'il n'était pas toujours rigolo, hein, c'était pas toujours, hein. Donc il savait que je connaissais aussi des petits travers et voilà, mais bon voilà, c'était très bizarre, mais à la fin par contre on était très proches parce que dans la maladie moi j'étais assez présente et donc du coup là on est devenu très 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 proche et voilà.
Il vous a demandé de cuisiner pour lui ou pas, Johnny?
Oh ben oui. Ouais. Bien sûr, et je pense que la dernière fois même qu'il a vraiment mangé un plat
c'était quoi?
J'avais ramené des pibales, c'était un plat qu'il adorait. Il y a deux trucs que je lui avais ramené. J'avais ramené, il adorait le shepherd's pie de Londres, le plat qui est un peu comme un hachis parmentier, ouais. Et il l'adorait d'un endroit très spécial à Londres, et j'étais partie à Londres travailler 3 jours, et donc je suis allée dans cet endroit-là, et ils me l'ont fait emporter, et je lui ai ramené ça, et puis voilà, ces pibales à l'espagnol, voilà, je les avais cuisinées avec Jean-François Piège, on avait cuisiné tous les deux, et voilà, et c'est, je pense, un des derniers repas qu'il a fait.
Il y en a un autre qui adorait manger, c'est Jacques Chirac. Chirac, à qui vous avez servi à manger à Périgueux. C'était lors d'un dîner avec le chancelier allemand de l'époque, Helmut Kohl. Vous aviez alors 30 ans. Vous leur aviez préparé des pigeonneaux. Vous êtes où quand ils arrivent sur la table, ces pigeonneaux? Parce qu'à 30 ans, on a deux chefs d'État, on doit être dans un état...
J'avais même pas 30 ans, j'étais toute gamine. Je suis où? Je me souviens, c'était en 96, je m'en souviens très bien. Moi, je suis dans les cuisines.
Ouais.
Bah, oui.
Et vous êtes sereine ou pas au moment où le plat arrive sur la table?
Je suis morte de trouille. Moi, je suis un bébé encore. J'ai même pas mon restaurant à Paris. Je travaille encore pour papa et on me demande de faire ça et donc et puis tout d'un coup on vient voir en cuisine et puis on nous dit il faut un deuxième pigeon, Monsieur Chirac veut un deuxième pigeon. On avait commencé à plier et tout. Et puis après, on vient me chercher, on me dit, il faut aller en salle, il faut aller dire bonjour. Et je dis, non, moi, je peux pas y aller là, c'est pas possible.
Et alors, vous y êtes allé finalement?
Ah, ben, j'ai pas eu le choix.
Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il m'a pas dit grand chose. Enfin, c'est surtout Madame Chirac qui est venue me voir et qui m'a dit, elle avait le doigt comme ça, en l'air. Il m'a dit, qui est-ce qui a cuisiné le pigeon? Alors, moi, parce qu'on était 3 autres chefs, il y avait qui cuisinait à côté de moi. Moi, j'étais comme ça. J'ai dû dire, bah oui, c'est moi. Et elle me dit, mais vous savez que mon mari et moi, nous ne mangeons jamais d'oiseaux.
Waouh.
Donc là, j'étais tétanisée. Et puis elle me regarde, elle me dit, est-ce que mon chef peut vous appeler lundi? C'est un samedi soir. Est-ce que mon chef peut vous appeler lundi pour avoir la recette? Et voilà.
Et là, donc, ça vous gagné. A soulagé, j'imagine.
Ouais, voilà.
J'imagine. On va marquer une deuxième pause musicale dans Hors Piste, le temps d'écouter À l'amour de Jean-Louis Murat.
Sur mon arbre perché, à l'amour, à mon l'amour derrière la jalousie. Comme toujours sur mon arbre à minuit. À l'amour. Dans l'ordre des péchés, par amour dois-je rentrer à pied. Comme toujours sur mon arbre péché. À l'amour.
France Inter, hors piste.
À l'amour de Jean-Louis Murat, Hélène Darroze qui est avec nous et c'est du plaisir, au plaisir avec Hélène Darroze. Vous avez eu le Covid, Hélène Darroze, un sale Covid, un Covid long, vous avez perdu le goût. Comment, quand on est une chef, mais j'entends le soupir déjà.
Ouais, alors le goût, c'est sincèrement, ça n'a pas été le pire, hein. Ça a été embêtant.
Ouais.
Et ça l'est toujours, hein, parce que encore à midi, là, je disais, mais est-ce que c'est assez salé, est-ce que c'est assez assaisonné. Donc
vous
ça l'est toujours un
encore.
Peu. Il y a des moments, ça s'envole, ouais, ça part. Mais le goût, c'était rien, quoi. Le goût, c'était rien. Ça, moi, j'ai vraiment été très malade. Et alors pas sur le coup, hein, pas bon quand j'ai eu le Covid. Il y a eu 48 heures paniquantes même, mais moi j'ai eu aucun problème de respiration. C'était que des problèmes neurologiques, des maux de tête de notre monde, voilà. Et mais c'est après quoi. Moi j'ai eu le long Covid, ça a duré plus de 18 mois avec des crises qui me pour vous dire, quand on a réouvert Londres, le premier service du déjeuner, il a fallu que j'aille au lit, quoi. Tellement et pourtant Dieu sait si c'était important pour moi de réouvrir Londres là en juin dernier ou en mai dernier, je sais plus quand c'était, mais juin. J'attendais ça comme le Messie, quoi. C'était le premier restaurant que j'aurais ouvré et tout. C'était le bonheur, quoi. Hein. J'ai dû aller me coucher tellement j'étais mal, quoi.
Le goût.
S'il était parvenu,
vous auriez fait quoi? Vous auriez arrêté? Qu'est-ce que vous auriez fait?
En général, il y a eu des moments où je me souviens un jour avoir rapidement m'être fait un sandwich au saucisson parce que j'avais un rendez-vous après, etc. Et c'est vrai que si j'avais fermé les yeux en mangeant, j'aurais pas su que je mangeais du saucisson. Donc voilà. Mais ça, c'est arrivé très peu. Par contre, le goût pour moi, c'était le sel. Je n'arrivais pas à savoir si c'était assez assaisonné. Donc j'ai souvent dû demander à mes collaborateurs et même l'année dernière sur Top Chef, je demandais à mes collègues, je leur disais, est-ce que c'est assez assaisonné, est-ce que c'est assez salé, parce que je ne peux pas l'évaluer, quoi. Ouais. Voilà.
Vous voyez cuisiner jusqu'à quand?
Écoutez, je me suis mis dans la tête. Alors cuisiner, je me vois cuisiner jusqu'au dernier jour, ça c'est clair. Mais cuisiner à la maison et voilà. Mais cuisiner comme ça, cuisiner avec des restaurants et tout, je me suis encore donné 10 ans.
10 ans. Et après, ce sera quoi? Ce sera le Pays Basque après?
Après, oui, certainement. Ce sera une grosse partie de ma vie au Pays Basque, oui, je pense, oui. Après, je sais pas comment ma vie va évoluer, hein, mais moi, j'ai mes petites filles qui commencent ça fait longtemps même qu'elles m'ont averti. Il y en a une qui veut étudier aux États-Unis et l'autre à Londres. Donc, si c'est le cas, je serai amenée à les voir souvent quand même, j'espère. Mais sinon, oui, le Pays Basque. Et je dis pas que je vais tout couper avec la cuisine, hein, attention, hein, parce que j'espère que j'aurai le temps d'écrire et d'écrire, bien sûr, autour de la cuisine, parce que là j'ai plus le temps et pourtant ça me procure beaucoup beaucoup de plaisir. Et puis je sais pas, il y a d'autres choses peut-être que d'être tous les soirs dans son restaurant. Voilà.
Vous dites pain au chocolat ou chocolatine, vous?
Ah là là. Écoutez, je disais chocolatine et je dis de plus en plus pain au chocolat. Aïe, mais là, aïe, je crois aïe. Que Michel Serrant, il va me.
Ah oui.
Il va m'égorger.
Là, vous devenez parisienne, faites attention. Est-ce que les gens osent vous inviter à dîner chez eux ou est-ce que vous leur collez tellement de complexes que vous êtes condamné à la solitude culinaire?
Non, non, ils osent. Bien sûr qu'ils osent. Heureusement qu'ils osent.
Oui.
Oui, mais bien sûr, c'est pas.
Donc on peut se régaler autour d'un mauvais repas. C'est pour savoir si je vous invite à la maison.
Bah oui. C'est bah après le voilà, il y a aussi le moment qu'on passe et qu'on partage et que voilà. Mais ouais. Après, il faut faire des choses très simplement. Un poulet rôti, je vous ai dit.
Ah, on y revient. On y revient au poulet rôti. Dans les traditions incontournables de hors piste, il y a l'objet. Je vais demander d'apporter un objet. Qu'est-ce que vous avez choisi?
Ouais. Bah, en fait, tiens, vous voyez, il est là. Je l'ai pas apporté. Je l'ai tout le temps sur moi. C'est cette croix. C'est
la.
Ouais, c'est une croix quoi que ma grand-mère m'a donnée un jour et qui ne me quitte jamais ouais. Jamais. Le premier geste le matin, c'est ça. C'est hop, c'est est-ce qu'elle est là, est-ce que voilà. Ouais. Donc ça, c'était ma grand-mère Charlotte justement, la fameuse.
C'est une tradition familiale ou c'est un attachement à la religion?
Alors moi, je suis croyante et je suis plutôt de religion catholique. Je crois en un Dieu qui inspire, qui guide, qui pardonne, qui ouais. Voilà, qui quand je trouve qu'on y revient de plus en plus dans la religion catholique, hein, mais c'est vrai qu'à un moment donné on disait si t'es pas sage, on disait ou si tu as fait quelque chose de mal, etc., tu iras en enfer. Je crois pas du tout à ce Dieu qui envoie en enfer. Je crois à un Dieu qui en effet laisse faire des erreurs, des bêtises, ouais. Hein, quelles qu'elles soient, qui les pardonne et qui ensuite, si on l'écoute bien, si on suit bien les signes, remet sur le droit chemin. Voilà, c'est ma façon de... C'est ma religion à moi.
Et qui est présente tous les jours dans votre vie ou qui est... De temps en temps, vous y pensez
Ouais, enfin, moi je dis que oui, présent. Enfin, moi je dis par exemple le métier que je fais pour moi est une prière. J'en ai beaucoup discuté d'ailleurs avec un ami prêtre. Je pense que dans la façon de donner, de donner comme ça de soi, de ses émotions, de ses compétences, j'allais dire talent, mais ça c'est un peu trop prétentieux, mais et puis de donner comme ça du bonheur aux gens. J'ai l'impression que moi je suis tout le temps dans la religion, dans la prière, quoi. Je trouve que je fais un métier qui me permet de prier tous les jours.
On va faire un petit quiz pour terminer rapidement avec une musique qui est celle de Johnny Hallyday, Mon plus beau Noël, chanson qu'il avait écrite pour Jade. À l'époque pour Jade, sa fille. Première question, à Noël, dinde ou chapon?
Chapon, des Landes.
Chapon des Landes. En ces temps de fête, plusieurs mairies, dont celle de Lyon, ont décidé d'interdire le foie gras dans les événements officiels, dans les banquets. Vous en pensez
quelle
quoi?
Quelle erreur.
Pourquoi?
Mais parce que c'est culturel, c'est une culture et c'est voilà. Et le foie gras, quand le gavage est bien fait, quand voilà. Après voilà, il y a foie gras et foie gras, mais comme il y a saumon et saumon et comme il y a volaille et volaille, etc. Mais quand la tradition est respectée, l'animal est respecté.
Hélène Darroze, vos cadeaux de Noël. Vous les ouvrez le 24 au soir ou le 25 au matin?
Le 25 au matin.
Ouais. Et vous soufflez un peu le 24 au soir ou vous êtes en cuisine forcément?
Ah bah moi je suis en cuisine hein, parce que c'est la famille et tout, et c'est moi qui cuisine, ouais, ça c'est sûr. Et je le fais avec grand plaisir, hein, c'est alors là.
C'est soir de fête pour vous aussi?
Oui, voilà, c'est ça. Après voilà, je vais vous dire la vérité, hein. Aujourd'hui quand je suis dans mes cuisines des restaurants et j'y suis le plus possible, je dirige, j'inspire, etc. Mais c'est pas moi qui assaisonne la salade ou qui cuit le morceau de viande, hein.
Si le Père Noël existe, et il est quand même très probable qu'il existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire?
Oh là là, qu'est-ce qu'il me dirait? Je sais pas, j'aimerais qu'il me dise qu'est-ce qu'il a envie de manger, je lui préparerai. Voilà.
Ne faites pas du renne, hein. La dernière question qui n'a rien à voir, le bon temps de cuisson pour un œuf dur, s'il vous plaît, c'est une question personnelle.
Moi, c'est 10 minutes.
10 minutes. Mm-hmm. Et vous mettez du vinaigre dedans, quelque chose?
Non, pas du tout.
De l'eau qui bout, et quand ça bout, vous mettez 10 minutes.
Exactement.
Et c'est pas tout sec après?
Non.
Bon, je me ferai un œuf dur, Hélène Darroze. Merci beaucoup, Hélène Darroze, d'être venue passer une heure dans Hors Piste avec nous. Merci à Marie Mérier à la réalisation, à Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et Rémi Sistiaga aux manettes. Prochain Hors Piste dans une semaine, toujours le dimanche, toujours à 18h, toujours sur France Inter. Nous serons avec le chanteur d'Indochine, le rare Nicolas Sir. Sirkis. Hélène Darroze dans Hors-Piste, le dernier mot, c'est toujours pour l'invité. Donc
ah oui.
C'est à vous.
Joyeux Noël à tout le monde. N'oubliez pas Chapon des Landes, hein, bien sûr. Et puis faites-vous plaisir. Voilà, cuisinez simplement, mais faites-vous plaisir. C'est toujours autour d'une table qu'on passe les meilleurs moments.
Merci Hélène Darroze.